I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard Affût, ravi de vous retrouver pour ce numéro un petit peu spécial pour moi et toujours accompagné du meilleur Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir pour ce nouvel opus de Poulain Rafute. Vous le savez, Poulain Rafute, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, et même un peu plus loin que le rugby, vous allez comprendre aujourd'hui. Bref, ce podcast, c'est celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle qu'il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes sur votre smartphone. Raph, je te repasse la main, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité prestigieux qui va bien au-delà des frontières de l'Ovalie.
Oui Arnaud, quel honneur aujourd'hui de recevoir celui qui a fait marrer le monde du rugby, pendant une bonne vingtaine d'années à grands coups d'audace et d'humour décalé. J'aimerais vous raconter quand même cette petite anecdote qui a été ma première interview quand je suis élu homme du match à Grenoble en 99. Lagui, justement, Philippe Billard arrive avec la caméra de Canal+ dans les vestiaires et me regarde et me dit « Mais Raphaël Poulain, t'es né avec 100 kilos ?» Et c'est vrai que... Aimant l'humour de Philippe, je me suis dit, allez, je me lance. Et je lui dis, ben non, mon père n'est pas très gaillard, ma mère non plus, mais ils ont dû s'envoyer. Tout en sachant que derrière, tu avais Mathieu Laporte qui était juste avec un t-shirt avec le page de Page et Kelly du 41, pour celles et ceux qui connaissaient Page et Kelly à l'époque. Donc, c'était un bon petit moment. Voilà, c'était une petite anecdote que je voulais partager avec vous. Philippe a bercé mon adolescence et mon arrivée à Paris. Et c'est une bible du rugby et surtout un mec qui te parle à cœur ouvert. Certes, des grands moments sportifs, mais aussi et surtout des petits moments spéciaux qu'il transforme très souvent en fou rire et toujours avec une certaine émotion. Lagui, c'est un conteur, un drôle de mec et un mec drôle et c'est rare. Philippe, ce sont ces petits bruits de couloir qui manquent quand tout s'arrête. Lagui, c'est un homme avec un cœur de gosse, un hypersensible, un artiste de la vie qui cache ses mots dans ses films et les transforme en émotions souvent drôles et toujours simples et impactantes. Lagui, c'est le fils à Joe et le père d'une génération, la mienne, qui a grandi avec ses petits journaux et ses tchic-tchac, parodiant toute star de rugby des années 80, 90 et 2000 en les rendant plus humains et accessibles. Philippe, c'est un réalisateur de talent qui apporte dans ses films de l'amour et de l'humain en toute simplicité. Bref, Lagui, c'est tout ça et bien plus encore. Alors, merci d'être dans Poulain Rafut, Philippe, et on va se régaler. Salut Philippe.
tu vas me faire chialer, là. Enfoiré. Tu sais que je suis très sensible.
Je le sais, c'est pour ça que j'ai appuyé sur les bons boutons, quand même.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Philippe. Nouveau film à l'affiche, mercredi 18 mai, dans toutes les bonnes salles de cinéma. J'adore ce que vous faites avec en tête d'affiche Gérard Lanvin et Artus. C'est la raison principale pour laquelle, avec Raphaël, on a décidé de venir vers toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire le pitch, même si, évidemment, tu as dû le faire à peu près 457 fois depuis deux mois. Mais est-ce que tu peux nous faire le pitch un peu rapidement de ce quatrième long-métrage ?
Quatrième film, ouais. Mine de rien. Bah écoute, non, c'est une idée que j'avais, quoi, qui traînait depuis un petit moment, mais je voulais faire jouer Gérard... à Gérard Lanvin son propre rôle. Voilà, c'est Gérard Lanvin qui a un film à tourner du côté de Narbonne en Occitanie. C'est un blockbuster américain où il va jouer un viticulteur résistant de la guerre 39-45. Et quand il arrive dans sa maison de location, la piscine est un peu dégueu. Et le lendemain matin, à 7h, arrive Momo Zapparetto, le pisciniste qui jouait par Artus, qui d'un seul coup regarde Gérard Lanvin et lui dit « Mais c'est marrant, on a dû vous le dire, mais vous ressemblez à Gérard Lanvin en plus petit. » Mais... Et là, il dit « Oui, Gérard Lanvin en plus petit. » En fait, on ne sait pas que ce Momo a une idole depuis qu'il est jeune, c'est Gérard Lanvin. Et le cauchemar va commencer pour l'acteur, double cauchemar, parce qu'en plus, le réalisateur du film américain a eu un tout petit problème de santé. Il a été remplacé au pied levé par... un Canadien qui est complètement loufoque et qui va faire le deuxième cauchemar de Gérard Lanvin sur le tournage, joué par Antoine Bertrand, qui est un comédien qui, si tu connais, qui a quand même 2 ou 3 Césars au Canada et qui est celui qui avait fait Starbuck et qui s'est lancé avec Starbuck. Grand, grand comédien, quoi. Donc, si tu veux, c'est une comédie qui n'a aucune autre prétention que de faire rire et d'émouvoir. ce qu'elle arrive à faire, apparemment, vu qu'on a fait quand même 40 avant-premières dans la France entière et que les gens rigolent vraiment beaucoup.
Lagui, juste une petite question, mais d'où ça te vient, justement? Je parlais de sensibilité dans ton portrait, mais le rire, qui est essentiel et qu'on a tendance à perdre, un peu le temps passe aussi, d'où tu arrives à le garder, je disais, d'arriver à faire passer des émotions, arriver à faire passer le rire. On rappelle justement les tchic-tchac, on rappelle le petit journal. C'est d'où ça vient, ça? C'est le fond du bus.
Alors, je ne sais pas. Alors ça, d'où ça vient, j'en sais rien, parce que je sais d'où vient ma sensibilité de par mon passé. Et je sais pourquoi je pleure à chaque fois que je regarde L'Âge de glace ou... Dès que je vois le mammouth, je chiale. Ça, je sais d'où ça vient. Après, le rire, je crois que j'ai toujours... D'abord, j'ai été éduqué avec le rugby. Tu sais ce que c'est. Il y a des personnages qui nous ont entourés pendant toute notre vie, et pendant toute notre carrière. Des personnages qui sont drôles, quoi. Qui, eux-mêmes, parfois même à leur insu, parce que de temps en temps, ils ne savent pas qu'ils sont drôles. Mais on a quand même eu la chance de vivre dans... Justement, je trouve que ce que j'essaye de retraduire après, c'est tout ce que j'ai vécu dans un vestiaire où il y a tout, où il y a l'humanité, il y a toutes les émotions dans un vestiaire. Et il y a le rire. Combien de fois on a éclaté de rire, Raph, quand on était dans un vestiaire, même parfois à des moments, et c'est là le truc, c'est souvent même à des moments... Les plus importants où il faut pas rire, c'est là où moi j'ai toujours pris ça, j'ai toujours pris la vie à la légère, c'est-à-dire que je me dis si on en rit pas, on en meurt, tu vois. Voilà, je pense que c'est un peu la phrase que je pourrais te dire. Si on rit pas des choses, ces choses là vont nous tuer, et moi j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de rire, quoi. Et après, c'est vrai que c'est aussi pour cacher sûrement... Bah, tu sais, quand j'ai commencé à faire du cinéma, et le fils à Joe m'a donné évidemment une étiquette de mec sensible que les gens n'avaient pas forcément vu à travers toutes les conneries que je faisais, mais je cachais. Des fois, je me cache quand je regarde L'Âge de glace avec ma fille, parce qu'elle me dit « Papa, ça a commencé, attends. » Parce que je prévois déjà tout ce qui va se passer. Le Roi Lion, tous ces trucs-là, je chiale, moi. Et donc, du coup, c'est aussi pour cacher ça, peut-être, mais il y a un truc qui est sûr... C'est que j'ai dit à mon producteur après le fils à Joe, il m'a dit, posez la même question. Il m'a dit, c'est marrant parce que tu as passé 20 ans à faire rire. Et j'ai dit, bah ouais, mais j'ai passé 20 ans à faire rire à Canal, mais maintenant j'ai envie de faire pleurer, quoi. Tu vois, c'est. Voilà. Et je trouve que les deux vont ensemble, parce que les plus belles scènes que j'ai vues au cinéma, c'est celles qui sont dans du rire dans le drame et inversement.
Alors Philippe, j'adore ce que vous faites, on est quand même loin de l'univers du fils à Joe, on est loin de l'univers rugby, et pourtant on a encore des acteurs qui affectionnent le rugby. Gérard Lanvin a joué, hein, on l'avait dit, pour le fils à Joe d'ailleurs. Tu avais raconté cette anecdote assez croustillante où il s'était claqué durant le tournage et qu'il y avait le kiné d'Albi qui venait le strapper tous les jours. Artus a joué au rugby également, avec un physique quand même somme toute imposant. Est-ce que c'est un élément...
Ouais, ah ouais, non, il le dit d'ailleurs, Artus, il le dit dans ses sketchs, il dit bah, j'ai arrêté le rugby parce que j'avais bouffé mon équipe. Il est très très bon. Pardon, je t'ai coupé, mais ouais.
Non, mais du coup, est-ce que d'aller chercher des acteurs qui ont cette sensibilité quand même, qui est proche de la tienne, est-ce que c'est un élément important, Philippe, pour que tu puisses travailler justement dans un cadre que tu affectionnes?
Moi j'essaie de faire des tournages qui ressemblent à une tournée de rugby. Donc il y a des matchs, il y a des entraînements, et après on se rencontre, si tu veux. On ne se croise pas, c'est toujours la fameuse phrase, hein, de je ne sais plus qui, c'était Pratt qui a dit ça dans le rugby, on ne se croise pas, on se rencontre. Donc si tu veux, moi, je viens de là. Donc le mec qui a le passeport rugby, déjà, il a gagné énormément, hein, pour moi. Parce qu'on va avoir, on aura les mêmes codes de comportement et on aura les mêmes codes, et comme ça, on ne perd pas de temps à expliquer les choses. Tu ne perds pas de temps à dire à un mec... Alors moi, j'aimerais que, parce que tu comprends, nous, non, au rugby, le mec, il sait, mais voilà, terminé. Quand j'ai rencontré Artus, pour lui donner le... Tu vois, par exemple, j'ai des actes qui sont comme ça, mais le rugby est très présent, forcément. Sur un tournage, j'ai toujours le ballon. Voilà, je joue avec le ballon parce que c'est un moyen de transmettre, c'est un moyen de communiquer avec l'équipe technique. Et au bout d'un moment, le ballon devient un peu le doudou. Des fois, tu sais plus où il est, puis tu vois la maquilleuse du film qui commence à essayer... De faire des passes vissées et au coiffeur, et puis d'un seul coup, tu as un toucher qui s'organise avec la régie, le truc, tu vois. Et donc, le ballon sert de tu sais, le ballon au rugby, il nous fait converger. vers le ballon. Tout le monde converge. Soit. Au football, tu te démarques. Nous, au rugby, quand on vient au soutien, on converge vers le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est que quand j'ai rencontré Artus, tu sais, maintenant, les jeunes, enfin, tu vois, c'est Internet, quoi. Tu vois, donc, le mec, il était sensible parce que je lui dis, moi, je ne te l'envoie pas en mail. Moi, je veux qu'on... Moi, je te fais une passe, hein, tu vois. Donc, le scénario, c'est en papier et je te fais la passe parce que c'est symbolique pour moi. Donc, du coup, on s'est bu 12 bières, je crois, enfin, 12 pintes. Et puis voilà quoi, les codes sont communs, donc on perd pas de temps à expliquer les codes. Et ça, c'est
justement Gérard Lanvin disait dans une interview là, parue récemment, il disait on a partagé de sacrés moments de vie en se retrouvant le soir dans la même maison pendant le tournoi. Ça, c'est pareil, c'est sur tes films, il y a une maison où tout le monde se retrouve le soir. C'est l'état d'esprit du rugby, du partage, de l'amitié qui était encore bien présent sur J'adore ce que vous faites.
Ouais, parce que je trouve que c'est... Tu vois, il y avait Antoine Bertrand, il y avait Artus, il y avait Gérard, il y avait la pomme, mais après, il y a aussi tous les amis qui débarquent, les enfants, enfin, la famille, et tout ça, ça... Le but, c'est quoi? C'est de se connaître, parce qu'en fait, quand on se connaît, on s'apprécie ou pas, mais en tous les cas, on va vers le même objectif, c'est-à-dire que... Et vous savez ce que ça veut dire quand tu joues au rugby, il faut, enfin, tu vois, le cinéma c'est du mastic quand même, c'est comme le rugby, hein, sauf qu'il n'y a pas les plaquages. Mais je peux te dire que quand on tourne, il faut rentrer des scènes en 2 heures, en 1 heure, et enfin tu l'as connu, hein, Raph, tu as fait des tournages, donc et à 18h, tu vois, il faut que ce soit fini, quoi. Donc c'est des matchs de top 14 tous les jours, sans les plaquages, sans les commotions, donc ça c'est quand même plus...
C'est pas plus mal.
Mais c'est une énergie de dingue. Donc, si tu veux, c'est un sport de combat, quelque part. Et ce sport de combat, il faut le faire avec des guerriers. Et les guerriers, tu les rassembles et ils deviennent guerriers parce que quand tu connais mieux la vie d'un mec, bah, tu vas plus au soutien du ballon avec lui que si jamais tu ne le connais pas, forcément. Parce que c'est un sport de con, le rugby. À 14 heures, tu prends un café, tu es avec ton petit costume. Et à 15h, il faut prendre un mec de 130 kilos sur la gueule. Donc, si tu veux, il y a un truc qui n'est pas normal. Tu comprends? Mais ce mec de 100 kilos, tu vas le prendre parce que tu es en groupe, parce que tu te fais des promesses. Tu vois, dans les troisièmes mi-temps, ça va quoi? C'est pas à boire, c'est à se faire des promesses. Et après, quand tu t'es fait des promesses, eh ben, il faut les tenir après. Eh ben, c'est pareil, moi, je fais la même chose. On est ensemble, il y a une complicité qui se voit après sur l'écran. Et parce que d'un seul coup, on va être unis par un truc. Parce que moi, tu vois, sur mes tournages, la star, c'est le film. Ce n'est pas Gérard Lanvin, ce n'est pas Artus, ce n'est pas ceci, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis jamais sur ma chaise de metteur en scène, je me balade. Parce que je trouve, voilà, on est au service on est au service d'un film, donc d'une histoire, donc des personnages. Et je fonctionne comme ça. Et donc, du coup, tout le monde est au même, tu vois, voilà, combien de fois... On peut toujours avoir besoin du chauffeur de bus à la dernière minute pour marquer l'essai de la victoire. Hein. Tu sais jamais quoi. Il y a pas que les mecs, il y a pas que les stars qui marquent les essais. Tu vois ce que je dis. Donc tout non, ça, je le pratique pour le cinéma. Ouais.
C'est le supplément d'âme en fait, parce que la Guy, t'a gagné dans les années 90 justement un titre. Moi, j'en ai gagné aussi quelques-uns. Et c'est tout le monde pense en fait que quand tu pars, c'est ça qui manque, c'est les 80 minutes, c'est le fameux trophée, tu vois, qui est un peu la cerise sur le gâteau. Mais en fait, c'est toute la vie sociale que tu crées justement au quotidien avec les matchs. Je le dis toujours, c'est le croche-patte à l'entraînement qui va te manquer, c'est les fameux petits bruits de couloir que tu as écrit dans ton bouquin, c'est tout ce qu'il y a en fait autour qui te permet, et oui, de gagner des matchs et aussi de les perdre, parce que c'est ce qui arrive aussi en rugby amateur. Mais c'est toute cette petite vie sociale que tu te crées, notamment dans les troisièmes mi-temps. Je pense que c'est pareil en tournage. Tu as bien sûr le film qui est un peu le bouclier de Brennus, mais en fait, derrière, c'est tout ce que tu as réussi à créer qui t'amène à avoir un film de qualité, un match de qualité, surtout une équipe de qualité. C'est tout ce que tu crées autour, c'est tous les liens en fait que tu crées. C'est ce qui te manque d'ailleurs.
Je suis complètement d'accord avec toi. Le vide.
On en avait déjà parlé justement chez toi, parce que je vois que tu es chez toi là. Le vide. C'est quand une carrière s'arrête, c'est quand un film s'arrête. C'est toute cette promotion aussi qui passe derrière avec tes rencontres. Et après, du jour au lendemain, tu te retrouves seul chez toi et tu dis « Wow, c'était quand même sacrément énorme, quoi. »
Et ouais, et tout ça, enfin, tu vois, quand tu me parles d'âme, c'est ce qui manque à beaucoup d'équipes pour aller chercher le truc. Parce que tu perds ou que tu gagnes, c'est une chose. Mais moi, j'ai remarqué quand même qu'à travers toute mon expérience de Canal, à la mienne en tant que joueur, Mais mon expérience de canal, tu sais quoi, je ressentais des fois, je ne vais pas être prétentieux, mais au mois de mars, avril, je commençais à sentir l'équipe qui allait aller au bout, quoi. Parce que je restais souvent en bringue avec eux, tu vois, le samedi. Et quand t'as des mecs qui sont en bringue le samedi, à 4h du mat', ils sont encore groupés autour du bar, que personne n'est parti, qu'il n'y a pas une nana, il n'y a rien, c'est juste les mecs entre eux. Je me dis toujours, j'avais vécu ça avec Perpignan, j'avais vécu ça avec Toulouse. Et je me suis, et à chaque fois, quand je revenais à Canal, je disais, les gars, là, ce que j'ai vécu, là, dans un mois en phase finale, ça va être dur à prendre. Parce qu'il faut aller les chercher, les trucs. On ne te les donne pas. Et pour aller les chercher, il faut avoir un petit supplément. Et quand, surtout sur un sport collectif. Parce qu'on est 15 mecs, on est 18, maintenant on est 22, hein, tu vois, sur un terrain. C'est pareil au cinéma, sur des scènes, sur un film. Mais il y a un moment, si tu fais, voilà, il faut être à 120%. Mais pour être à 120%, il faut avoir envie. Et il faut que les mecs avec qui tu joues te donnent envie aussi d'être à 120%. Parce que tu le sais, voilà. Mais c'est généralement dans tous les sports comme ça, mais encore plus dans le rugby parce que c'est un sport de combat. Voilà. Et qu'il faut aller au mastic. Et que le mastic, c'est quand même pas toujours. Enfin, tu vois, oui, devant, il y a des mecs qui aiment ça, la maillotche et tout. Mais moi, tu vois, moi, pour me mettre au mastic, il fallait quand même que j'aime les mecs avec qui je joue, hein, parce que sinon, je n'y vais pas au mastic. Hein.
C'est marrant, messieurs, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de rugby. Et j'aimerais vous faire échanger sur une thématique, toujours en lien, évidemment, avec vos expériences respectives. La question va s'adresser autant à Philippe qu'à Raph, finalement, parce que vous venez tous les deux du monde du rugby. Philippe, aujourd'hui, en est à son quatrième long métrage. Raph a eu une expérience aussi en tant que comédien. Et on a l'impression que c'est difficile de se défaire d'une étiquette. J'ai retrouvé une interview, Philippe, où tu disais qu'en 2011, Le Fils à Joue avait quand même réuni 1,3 million de personnes en salle, que ce film avait plu, hein, à la famille du rugby, mais que tu disais que tu te plantais peut-être parce que faire des films comme tout le monde, des comédies, tout ça, le cinéma n'était pas forcément prêt, que le monde du cinéma ne te reconnaissait pas en tant que réalisateur, que tu avais une étiquette très rugby. Papy Sitter, par exemple, avait fait énormément d'entrées dans le sud de la France, qu'il avait surfé un peu sur la nostalgie du Fils à Joe, et qu'on ne va pas voir un Guillard comme on va voir un Canet ou un Godard, que tu es estampillé rugby et que c'est comme ça. Est-ce que c'est encore vrai, ça, aujourd'hui? Et est-ce que c'est vraiment si difficile que ça, messieurs, de se défaire d'une étiquette?
Raph, vas-y.
Ah ben, tu m'envoies la primeur. Moi, j'ai arrêté ma carrière en 2005. J'ai fait une année au laboratoire de l'acteur et j'ai rencontré Tahar, justement Tahar Rahim, qui est devenu un de mes meilleurs potes. Et Tahar, qui est rentré un peu plus dans les clous, je dirais, du jeune premier dans le monde du cinéma. Moi, je suis arrivé avec mes 1m86 et mes 100 barres. Donc, j'avais envie que les gens voient ce que j'étais à l'intérieur. Résultat, force est de constater, quand tu regardes mon CV, j'ai fait apprenti bourreau muet en 1100 en Écosse avec Tadjani, où j'étais le Golgoth qui est sur scène et qui ferme sa gueule. Un autre film aussi avec Régis Varnier, où je suis à poil mort sur un lit. Moustachu, tu vois, où on voit que le corps, en fait. Et c'est délicat parce que tu as envie d'y mettre de tes émotions, tu as envie d'y mettre de ce que tu es. Mais le problème, c'est que tu es estampillé, videur de boîte ou brancardier. Donc, c'est difficile. Deux exemples que j'ai eus de casting. On m'a fait passer un casting pour Coca Light, mais quand tu fais 100 bars, le mot light, il n'a pas de sens. Et dans la même salle de casting, 15 jours plus tard, la même directrice de casting avec les mêmes mecs autour de moi qui faisaient tous la taille de ma cuisse. Et la nana, elle me dit, monsieur Poulard, vous rentrez dans la salle, vous mettez le jean. Je dis, ben non, monsieur Poulard, on s'est vu il y a 2 semaines, tu vois. Elle me dit, on s'en branle, rentrez. Et en fait, je tente de mettre le jean, mais le mollet ne passait pas, le jean n'était pas à ma taille. Donc, c'est con, mais c'est délicat parce que moi, j'ai voulu pas percer dans le cinéma. Mais j'avais envie que les gens, étant donné que j'avais appartenu au rugby dans une vie de groupe énorme, j'avais envie de me rapproprier en fait ma propre histoire et puis que les gens puissent voir ma sensibilité, ce que j'étais à l'intérieur. Or, j'ai toujours été catégorisé, et c'est normal, comme ancien rugbyman, certes, mais surtout avec ce gabarit que j'ai jamais vraiment assumé jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est difficile quand tu es face caméra. En fait, c'est comme Artus, hein, c'est comme tous ces mecs qui ont un gabarit un peu hors norme. Et voilà, donc j'ai arrêté ma carrière très, très rapidement parce que j'ai vu qu'au-delà peut-être du talent que je n'avais pas, je n'aurais jamais vraiment les rôles aussi, peut-être partir aux États-Unis. Mais c'était un peu mes expériences de cinéma et j'en suis sorti grandi après. Mais bon, quand tu es dedans et que tu as un agent qui te montre les ratiches et qui te montre le cul en disant « Regardez, il a fait les calendriers du stade », t'es catégorisé. Et voilà, pour ce qui est de mon expérience, ma petite expérience de cinéma, je ne regrette rien, mais voilà, c'est toujours un peu délicat, quoi.
Philippe.
Ah, mais je partage son avis. Après, moi, en fait, si tu veux, c'est comme Marshall. Marshall et moi, on n'a pas la carte. On n'a pas la carte, mais ce n'est pas grave, parce qu'on fait quand même des films. Et puis, on peut aussi, tu vois, vivre sans avoir la carte. Mais on n'a pas la carte parce que, parce que Olivier, c'est un flic. Donc, il fait des films de flic, il les fait avec beaucoup de talent et il les fait avec sa sensibilité parce que lui aussi, c'est un mec qui a une sensibilité exacerbée. Mais il n'a pas la carte. Tu vois, on n'est pas. Enfin, tu vois, je te raconte une histoire. Le fils à Joe, le petit Jérémy Duval qui jouait Tom, il est nominé au Festival de Cabourg comme jeune espoir avec le fils à Joe. Donc, moi, je suis invité. Donc. Quand je descends de l'ascenseur, je me souviens, parce qu'il y avait un petit cocktail au bar de l'hôtel où on était tous, tu vois. Et les mecs ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis. Mais il y a un truc qui est drôle, c'est qu'il y a il y a deux nanas qui étaient des comédiennes. Je ne pourrais même pas te dire leur nom, parce que d'abord, je ne le dirais pas si c'était, mais en tous les cas, je ne me souviens pas. Je vois leur tête, tu vois. Puis j'étais habillé, moi, comme, tu sais, j'étais habillé, ma chemise blanche, ma veste noire, un peu comme un chauffeur de Uber, quoi, tu vois. Et là, je sors de l'ascenseur, je commence à essayer de trouver une tête, tu vois, que je connaîtrais éventuellement, parce que j'étais invité, parce que j'étais réalisateur de ce film, tu vois. Et là, il y a une nana qui fait comme ça. Là, sur les deux comédiennes, il y en a une qui fait, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez venir. Moi, j'ai compris qu'elle m'a pris pour le serveur. Elle me dit, est-ce que je pourrais avoir deux coupes de champagne, s'il vous plaît? Je dis, ok, j'arrive. Je suis allé au bar, j'ai payé les coupes pour donner à la classe. Et j'aurais mis devant la table, comme ça, je dis, c'est la maison qui vous offre ces deux coupes, mesdemoiselles, enfin, mesdames. Et dans ma tête, je me suis dit, si jamais le petit gagne, je voudrais être juste à côté de la nana qui va voir ma tête parce que je vais monter. Le gamin, il va me dire, allez, Philippe, hein, et là, elle va faire, oh putain, le con. Mais il n'a pas gagné, donc j'ai pas eu ma petite vengeance. Mais voilà, après, ouais, t'es estampillé, c'est-à-dire que, ouais, mais c'est pas grave. Mais je suis plutôt estampillé rugby. Et ce qui fait qu'on me pardonne moins de choses, c'est-à-dire qu'on te pardonne, on peut avoir un peu d'empathie, mais quand même, tu vois, là, il y a une critique sur le film, là, j'adore ce que vous faites. Le JDD, le mec, il te dit... Non, mais le JDD, voilà, il te dit... Alors, ben, j'ai beaucoup ri. Arthur, c'est excellent. Gérard et Lanvin est au top. Mais il cherche un truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une très bonne comédie. Bon, c'est très bien ficelé. Mais le mec, il arrive quand même à te dire... Bon, c'est un peu classique. Mais putain, ferme ta gueule, mec. Ferme ta gueule. Tu dirais pas ça à Guillaume Canet, tu dirais pas ça, tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est que d'un seul coup, voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours c'est pas le rugbyman, c'est pas l'ancien rugbyman qui va quand même nous apprendre à faire du cinéma. Donc, moi, je suis victime de ça, c'est pas grave, tu vois, parce que j'endors bien. Mais t'as envie de dire, c'est comme une fois, après On voulait tout casser, pour la sortie d'On voulait tout casser, qu'il y a un film qui est un peu conventionnel, c'est un mec qui va mourir, les potes autour, bref. J'ai pas inventé, tu vois, j'ai pas réinventé. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que Bec BD, qui avait la rubrique du cinéma à l'époque, je ne sais pas pourquoi, je le connais un peu, Bec BD, je l'ai fréquenté 2-3 fois, et il me met ce film-là en critique, tu vois, sur le plateau, entre tous les crevards là, qui sont là, qui te parlent du Festival de Cannes, des trucs, tu vois, j'étais entre un film libanais, israélien, enfin, tu vois, tout ce qui fait que Cannes est un... Et il balance, on veut tout casser. Et alors là, mon pauvre, c'était un truc en pâture, quoi, tu vois. Et il y a une nana, je ne sais plus comment ça, mais critique connue, tu vois, pour elle, le cinéma, ça ne peut pas être Philippe Biard, quoi, tu vois. Et puis voilà, c'est comme ça. Et elle dit, alors, je ne sais pas quoi dire sur ce film-là. Je te jure, il y avait le lien encore sur Canal, tu regardes. Mais, alors, j'ai ri, hein, parce que c'est vraiment bien écrit. Voilà, hein, je te fais la nana. J'ai même versé ma petite larme parce que franchement mais je sais pas quoi dire sur ce film là c'est bien filmé mais dis-le alors. Mais dis-le, mais non, parce que c'est tout un cinéma, il se pince le nez sur des trucs comme ça, tu vois, voilà. Mais à l'arrivée, je vais te dire j'ai deux grands bonheurs. Mon premier bonheur, finalement, c'est que j'ai du mal à monter les films sur mon nom, tu vois. Heureusement qu'il y a Gérard Lanvin. Mais Le Fils à Joe a fait 4 millions de téléspectateurs sur TF1 en plein mois d'été, 2 août. On voulait tout casser, qui est un film qui a été un échec total en cinéma, a fait 4 millions sur TF1 entre France-Belgique 2018 et la finale et la demi-finale de, ou la finale de la troisième place, donc 4 millions, c'est-à-dire on était premier. Le papy-sitter, là, qui a malheureusement pas eu une identité, tu vois, pas identifié, il a eu 200 000 entrées parce que le Covid.
Pas Covid.
Et on a fait 4 millions sur France Télévisions. Donc, moi, j'ai fait des films, ça fait 4 millions de mecs en moyenne qui regardent quand ça passe à la télé. Donc, je les emmerde. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Mais oui.
Je les emmerde. Oui. Tu vois, voilà. Mais même avec ça, tu as du mal à monter les films. Parce que, oui, mais tu comprends, c'est pas vraiment... Bon, au bout d'un moment, tu l'acceptes et puis tu es content parce que moi, j'ai pas beaucoup de budget pour faire les films, tu vois, parce que justement, j'ai pas la carte, quoi. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime cuisiner. Donc, quand je cuisine, des fois, je regarde ce qu'il y a dans le frigo, je fais ce qu'il y a dans le frigo. Et tant mieux, quoi, tu vois. J'ai du travail, j'en donne à plein de gens. Ben, sûrement qu'il y a 4 millions de mecs qui ont apprécié Papy-Sitter. Eh ben, putain, j'ai fait ça au moins dans ma life, quoi, tu vois. Donc, je me dis maintenant, aujourd'hui, je me bats plus. Je suis plus ligué. Enfin, je raconte ça parce qu'on est en train d'en parler. J'en souffre pas. Parce que, tu sais quoi, j'en souffre pas parce que jamais j'aurais pensé que un jour je réalise des films. Jamais. Écrire, oui, parce que c'était dans mon ADN. Mais j'en ai déjà fait 4 en 10 ans. Et j'en fais un 5e, là, en juillet-août. Donc, en 10 ans, j'aurais fait 5 films. C'est un miracle, la vie, tu vois. Donc, je m'en fous maintenant. Je n'ai pas la carte. Je ne suis pas au Festival de Cannes. Je ne suis pas au Festival de mes couilles. Mais ce n'est pas grave. Je travaille. Je fais le métier que j'aime. J'écris. Je réalise. C'est un truc, tu vois. Des fois, je suis là avec ma script et tout. Je la regarde. Je dis, tu te rends compte, c'est Gérard Lanvin, quoi. Je n'arrive pas à banaliser le truc. Je dis, tu crois que c'est le vrai, quand même. Je dis, ça fait quand même 20 ans que je suis pote avec Gérard Lanvin. Tout le monde a envie d'être pote avec Gérard Lanvin. Et moi, je suis pote. Donc, quand je me lève le matin, je fais, tu fais quoi là ? Oh, il pleut. Bah, on s'en fout, il pleut. On va faire une scène à l'intérieur. Et puis, c'est tout, c'est pas grave. Je suis d'un calme sur un tournage, je suis tranquille, quoi. Et je regarde des fois, je dis, waouh, c'est moi qui ai organisé tout ça, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai écrit qu'on se retrouve là tous ensemble dans une maison. Je regarde Arthur, je dis, putain, je regarde Marshall, enfin, je me dis, waouh. C'est là, tu vois, donc moi je suis tous les jours, je suis émerveillé par la chance que j'ai. Donc alors, les mecs, si j'ai pas la carte, je les emmerde.
Alors justement, en quoi j'adore ce que vous faites est un peu différent finalement des premiers films. Est-ce que tu as essayé de t'affranchir un petit peu justement de cette étiquette rugby, parce que là on est loin de l'univers du rugby quand même.
Non, je m'affranchis pas. En fait, pas du tout, parce que l'idée est quand même venue un peu de ce que de temps en temps nous on subit aux fêtes de Bayonne, tu vois. C'est-à-dire des mecs. C'est-à-dire des mecs qui te prennent là, ici, là, à 7h du soir.
Ils te lâchent pas.
Des mecs de partout, tu vois. Et puis, ils te demandent qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France à 7h du soir. Mais ils te lâchent pas. Et à 10h du matin, ils sont encore là en train de te dire mais tu m'as pas répondu sur l'équipe de France. Tu vois. Donc, si tu veux, c'est un peu parti de là, quelque part. Mais je voulais pas le raconter sur moi parce que ça n'a pas l'intérêt. Mais sur Gérard Lanvin, qui est très populaire aussi. Donc, c'est pas éloigné. Et en plus, il y a toujours un clin d'œil, parce qu'il y a un moment dans le film, il y a toute une équipe de Corbière 15 qui est venue, parce que le fameux Momo, qui, évidemment, à qui on dit « Surtout, tu dis pas où j'habite », tu vois, parce que sinon, évidemment, le matin, Gérard Lanvin se lève, et puis il est en train de faire son café, il entend « Eh, il est où ?» Et il est où, Gérard Lanvin ? Et là, il pousse la porte. Et devant lui, il y a toute l'équipe de France de Corbière
15.
Il y a même Jonathan Bess qui est venu faire une figure avec nous, tu vois. Et donc, là, Gérard, enfin, donc c'est complètement rugby, tu vois. Et il est là, Gérard Lanvin. Donc, si tu veux, je mets toujours un petit clin d'œil de rugby, forcément, tu vois. Mais. Il y aura toujours, c'est mon ADN, mais je n'essaye pas de m'affranchir. C'est une idée, je la développe au max. S'il n'y a pas de rugby, il n'y a pas de rugby. Dans Papy Sitter, c'était du surf, il n'y a pas de rugby, à part le fait que c'était tourné dans les Landes, qui est une terre de rugby. Donc voilà, donc je n'essaye pas de m'affranchir, je ne veux pas m'affranchir. J'ai une idée, en plus je trouve des mecs pour le faire, et en plus il y a des mecs qui payent pour le faire. Je dis, où est le problème ? Je ne suis pas là pour m'affranchir vis-à-vis de... Enfin, tu vois, voilà, j'ai pas à chercher ça, surtout à mon âge maintenant. Si tu fais encore deux films, tu vois, ce sera le max. Et j'aurais fait plein de... Voilà, c'est un miracle, tout ça.
Philippe, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, qu'on regarde un peu dans le rétroviseur. C'est vrai que tu as longtemps été étiqueté. On ne va pas revenir jusqu'à 1990 et ce titre avec le Racing. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont découvert le rugby à travers Canal+, tu étais celui, comme disait Raph dans son portrait, qui égayait les matchs du samedi à 14h15 ou 15h, je ne sais plus à quelle heure c'était à l'époque. Comment t'es venu au cinéma ? Raconte-nous un peu, est-ce que tu peux nous raconter ? Est-ce que tu as commencé par écrire des scénarios ? Si je me trompe, il y a eu d'abord Camping, 3-0, qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Il y a eu Disco. Comment on est venu ? Alors, est-ce que c'est Petit bruit de couloir qui a tout déclenché ? On rappelle un roman fabuleux, et j'invite tous ceux qui vont nous écouter à se le procurer, parce que pour tous ceux qui ont touché de près ou de loin un ballon de rugby, on est un personnage de ce Petit bruit de couloir.
Mais je vais te dire, Arnaud, c'est simple. En fait, moi, j'écris depuis l'âge de 22-23 ans. Voilà. Me demande pas pourquoi. J'étais nul. J'ai un bac F3. Je faisais plein de fautes d'orthographe, mais j'avais décidé d'être écrivain. Voilà, c'est tout. C'était comme ça. Il y a un moment... voilà. Bon. Et j'ai commencé à abattre des arbres, comme dit mon éditeur, Didier Lamaison, qui a été mon mentor, qui est un joueur du PUC et professeur de lettres. Mais... voilà, je voulais écrire des romans, c'est comme ça. Et puis, je suis devenu un peu le mec qui écrivait les chroniques sur le Racing, sur mes potes, quand on était en demi-finale, en finale. On me demandait toujours, raconte-nous la journée et tout. Donc, je faisais des portraits de mes potes et tout. Et puis, je me suis fait connaître comme ça. J'ai commencé à écrire à droite à gauche. J'ai écrit un roman en parallèle. Tout le monde se foutait de ma gueule. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, Lagui ? Il écrit un roman. Oula, donnez-vous ton roman.
Là aussi, en termes d'étiquette, quand même, t'es pas mal, quoi.
Ben ouais, si tu veux. Oula, Lagui est en train d'écrire un roman. Oh, putain. Donc, et puis finalement, j'en ai sorti un, Pourquoi c'est comment l'amour. Et puis après, j'ai fait Petit bruit de couloir. Et j'ai toujours écrit. Et moi, je pensais pas cinéma encore. Et c'est vrai qu'à Canal, j'ai fréquenté des mecs, dont un qui s'appelle Kader Aoun, qui était un peu le mentor de Jamel, toute la bande à Jamel et tout ça. Et il adorait ce livre-là, il adorait. Et un jour, il y a Fabien Antonente qui cherchait un mec pour écrire 3-0. Les producteurs m'appellent Kader Aoun, qui connaissait à peu près la terre entière des mecs qui pouvaient écrire sur le football. Et il a parlé de moi. Voilà, c'est un mec, c'est lui qui a déclenché ça. J'ai rencontré Fabien, ça a matché. J'ai fait plein de films. Et au bout d'un moment, comme j'ai connu Gérard Lanvin sur 3-0, évidemment, quand ça a matché tout de suite, tous les deux. Et on s'est vu beaucoup. Et puis à un moment, il m'a dit, il faut que tu arrêtes d'écrire pour les autres. Il faut que tu fasses tes propres films. Et je me suis dit, tiens, je vais faire Le Fils à Joe. Que j'ai mis 9 ans à monter. Hein, 9 ans, Le Fils à Joe. Hein. Je l'ai écrit en 2001, je l'ai tourné en 2009. Donc, ça veut dire 8 ans. Mais puis après, j'ai rencontré Marshall. Je suis venu à la réalisation complètement par hasard. Hein. Mais à l'écriture, ça fait longtemps que... Et puis finalement, quand je me suis retrouvé sur le plateau du Fils à Joe, j'ai envie de te dire deux choses. Même pas peur, parce que de toute façon... Comme je leur disais à tous, tu vois, les mecs ils me disaient toujours, putain, t'es calme, ah, c'est quand même un film, tu vois, t'as quand même Gérard Lanvin. Je dis, ouais, mais bon, si jamais je le rate, on va me mettre en prison ou pas ? Je veux juste savoir. Parce que si jamais on ne me met pas en prison parce que je l'ai raté, c'est pas grave. Hein. C'est une goutte d'eau, un film. Hein. Depuis Le Fils à Joe, il y en a 7275 qui sont sortis, hein, des films. Et avant, il y en avait 375 millions hein, déjà. Donc, t'es qu'une petite. Tu vois, une petite. Alors, tant mieux c'est mieux si c'est réussi, tu vois. Mais moi, je pars du principe que ce que tu fais dans la vie a la plus grande importance. C'est-à-dire qu'il faut lui consacrer tout le focus, que tu sois boulanger, que tu sois écrivain, ce que tu veux. Mais n'oublie jamais que ça ne représente qu'un milliardième du monde, quoi, tu vois. Donc, il faut pas. Ben, tu vois, il faut avoir la tête bien faite, mais pas comme ça. Ça ne sert à rien. Parce que ce que tu fais, on s'en tape. On s'en tape ce que tu fais. Il faut que ce soit pour tes amis, pour ton entourage, que les gens soient fiers de ce que tu fais. Mais c'est oublié après. Mais ceux qui n'oublient pas, c'est ton ancrage. Eux, ils n'oublient pas. Et tu travailles voilà, sur 1,3 million de mecs qui ont vu Le Fils à Joe, bah, la vie, elle passe. Tu vois, le mec, il ne se lève pas le matin en disant « Oh là là, quel film !» Non, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Donc, il y a ça. Et la deuxième chose dont je suis très fier, justement, par rapport à la carte qu'on disait, c'est que moi, j'ai fait de Vincent Moscato un pompon magnifique. Et ça a été mon combat, parce que quand le cinéma, quand j'ai commencé Le Fils à Joe, tout ça, les mecs, ils me disaient, tu vas pas prendre Moscato. Il dit des conneries à la radio. Enfin, c'est ce que, tu vois, il jouait que des rôles de balourd, quoi, tu vois, avant. Que des rôles de garde du corps, ou des trucs comme ça. Et moi, je savais qu'il y avait dans le moteur la même sensibilité qu'à Raph. Et je suis allé chercher le Vincent et je lui ai dit, tu vois, et j'ai fait comme au rugby, c'est-à-dire, je lui ai dit, ils veulent pas de nous, à une pilée, ils veulent pas de nous, mais on va y aller tous les deux, et tu vas leur montrer. Et on a travaillé ensemble, et Vincent fait un pompon merveilleux et inattendu, parce que personne ne pouvait imaginer qu'il pouvait faire pleurer Pompon, enfin, tu vois, Vincent. Et ben ouais, alors du coup, c'est mes grandes fiertés, ça, c'est mes combats, c'est mes trucs, c'est un truc, comment te dire, ah, j'aurais fait ça, tu vois. Voilà, alors après, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment, ça c'est autre chose. Mais...
Magnifique transition, messieurs, et c'est pareil, une thématique que j'aimerais que vous échangiez là-dessus, c'est que Raph Poulain, Denis Charvet, Vincent Moscato, Philippe Diard, il y a quelques personnalités quand même du monde du rugby qui ont goûté au cinéma, Fournol. À la comédie, pardon ?
Éric Fourniol, ça aussi.
Éric Fourniol, enfin, comment vous expliquez ce lien, cette appétence, ces personnages, c'est lié à ce côté un peu truculent du rugby, c'est lié à quoi ?
Bah, déjà, je pense que le rugby est un des sports, je dis bien un des sports, avec la boxe et le cyclisme, qui amène énormément d'envie, de narration. Parce qu'il y a plein d'histoires à raconter. Les plus grands écrivains ont écrit sur le rugby, sur la boxe et sur le cyclisme. Les Antoine Blondin, etc. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'épique. Tu vois, de mythologique. Dans ces trois sports-là, il y a un mythe qui s'installe. Donc, qui dit mythe, dit narration de grande histoire avec des grands personnages. Et il se trouve que, le descendant, on va dire, de la presse écrite ou de la narration écrite, le truc qui arrive après, c'est le cinéma. Il y a une époque, qui dit que Victor Hugo n'aurait pas été réalisateur si, à l'époque, s'il vivait maintenant, peut-être qu'il ferait des courts-métrages et que Les Misérables n'aurait jamais été un livre, mais aurait été un film, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est la caméra. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, je pense qu'il y a aussi une recherche, et je pense qu'il va comprendre ça, Raph, aussi, c'est que quand on arrête notre carrière, le truc qui me manque le plus, c'est pas de jouer au rugby pendant 80 minutes, parce que, pour être honnête, je devais avoir le ballon 5 fois dans l'après-midi. Enfin, un truc qui m'a manqué beaucoup, si tu veux. Tu vois mais c'est l'adrénaline que ça procure. L'adrénaline, la peur dans les vestiaires, la peur de mal faire, le ridicule, la peur d'être blessé. Et puis, tu rentres sur ce terrain quand même un peu... Alors nous, on ne peut pas dire gladiateur, parce que à l'époque, on n'était pas gaulés comme l'ont été après la génération de Raph et puis celle d'aujourd'hui. Mais tu as un petit côté quand même héroïque, tu vois. Donc, du coup, tout ça, ça nous manque quand on arrête. Donc, tu vas le chercher ailleurs, dans des challenges différents. Et le cinéma, moi, les premiers challenges que je me suis donné, c'est sur Canal. Canal, fallait que je fasse marrer, quoi, tu vois. Donc, moi, le mardi, le mercredi, les mecs, ils savent pas, ils pensent que j'arrivais comme ça. Mais moi, je suis un bosseur. Moi, je travaille 13 heures par jour. Je me lève à 4 heures du mat. Quand je sais que je dois faire une connerie là, je faisais les gestes techniques avec les joueurs de football, avec les Marcel Dor et tout, je me souviens, je me la collais quand même, tu vois, c'était du boulot, parce que j'avais la trouille. C'est qu'à l'époque, enfin, à l'arrivée, il fallait que les mecs disent « Ah ouais !» Donc, c'était la surenchère de la performance différente que sur le terrain, mais c'est quand même un truc qu'on recherche, tu vois. L'adrénaline, la performance, le challenge, la compétition, quelque part, et le cinéma amène tout ça.
Et après, puis, la Guy, il y a aussi la connerie, parce que la bonne connerie, comme on va dire, parce que les personnalités que tu as citées, Arnaud, en fait, c'est tous les mecs qui étaient au fond du bus, quoi, qui se sont trouvés aussi et qui se sont formés une personnalité à travers le regard des autres. Moi, en tout cas, j'étais le bouffon de la bande, comme beaucoup il y avait au Stade français. Mais Moscat, quand tu le vois, qui fait son one-man show, la Guy aussi, toi, qui a fait marrer, en fait, c'est aussi ces personnalités qui sont un peu... Je ne dirais pas hors du groupe, mais il en faut toujours un, tu vois. Il faut toujours un mec qui est là pour faire marrer, parce que comme ça, il prend aussi pas mal d'émotions. Puis les mecs se déversent aussi des émotions à travers le rire, à travers la connerie. Et moi, j'étais constamment là-dedans, en fait. Et c'est ce que je sens dans ton regard, et c'est ce que je sens dans le regard de Vincent. Et puis d'autres, Denis aussi, il y a aussi une recherche de reconnaissance quand ça s'arrête. Il y a aussi une volonté d'exister au-delà du rugby, parce que moi, je le dis, hein, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Quand ma carrière s'est arrêtée assez tôt, Bon, j'avais fait du théâtre aussi au collège, au lycée, mais ça, les gens ne le savent pas. Tu vois, ils ont l'impression que j'étais parti dans une espèce de carrière et un fantasme de notoriété. Mais non, il y avait une volonté aussi de partager tout ce que j'avais vécu. Et puis, par le rire, par la connerie, et puis il y a toujours une quête de lumière. En plus, je suis Lyon. Donc, je pense qu'on est aussi des personnalités qui avons aussi envie de se faire connaître à travers la caméra, à travers le regard des autres.
Bien sûr, mais bien sûr.
Il faut l'assumer. Il y a ce côté aussi un peu, en tout cas, moi, je le vis, hein, je l'ai vécu, ce côté un peu narcissique. Et puis, envie de se réapproprier aussi sa propre histoire et puis de partager le talent qu'on avait dans le bus, quoi. Et,
ouais, et puis, il y a aussi ce côté… alors, je n'irai pas jusqu'au mot narcissique, parce que narcissique, ça voudrait dire qu'on est juste content de son corps et de l'image qu'on renvoie.
Alors, moi, je le vois plus comme une quête, la Guy. Tu vois, pas comme une…
Non, mais la lumière. La lumière.
Ouais, la lumière que regardez comme je suis beau, parce que moi, je ne me suis jamais considéré comme… Jamais.
Non, mais je suis d'accord. On est en recherche. Moi, j'ai toujours été un peu en recherche de lumière. Mais c'est évident que quand tu arrêtes de jouer, la lumière s'éteint, quoi. C'est-à-dire que là, cette lumière-là, elle s'éteint. Il y en a d'autres peut-être qui se rallument à droite à gauche quand même, parce que c'est pas… Mais il y a un moment, c'est pour ça que c'est toujours dangereux. C'est pour ça qu'il y a quand même, il y a quand même des dépressions, hein, derrière tout ça. Donc c'est un truc sérieux quand on s'arrête à 32 ans, 33 ans et que la lumière s'éteint. Ouais, parce que c'est plus toi, hein, t'as beau, voilà, c'est plus toi. Et du coup. Là, aujourd'hui, bah, c'est vrai que c'était une manière aussi de rester dans la lumière. Moi, j'ai vécu… C'est une manière de rester dans la lumière, mais c'est aussi une manière de rester dans la famille. Voilà. C'est-à-dire que d'un seul coup, moi, j'étais heureux. Enfin, tu vois, je me lève le matin, je vais faire Toulouse à l'époque, hein, sur le bord du terrain. Je me dis, waouh, il y a combien de… Moi, je mesure le bonheur que j'ai par le nombre de personnes qui me tueraient pour être à ma place.
Voilà. Un maigre.
Et je pense qu'il y en a un paquet. En fait, quand je sors de chez moi, je regarde quand même un peu avant.
Philippe, il y a une question qui me tarabuste, et là, c'est l'aficionado de Petit Bruit de Couloir, qui a été un livre sublime dans lequel de nombreux rugbyphiles se sont reconnus, un livre qui a bercé des générations, hein, de rugbymen. Et tu le dis avec beaucoup de franchise, mais écrire un livre, ça ne paye pas. Alors que le cinéma, entre guillemets, remplit le frigo, je reprends ton expression, il n'y aura jamais de suite à ces livres que tu as écrits.
Bien sûr. Si j'ai la chance de vivre assez longtemps, parce qu'on ne sait jamais. Mais après, ouais, je pense que je vais faire j'ai deux films en tête, là. J'ai 61 ans, mec. Hein, donc, tu vois, c'est deux ans.
La vie devant toi.
Ouais, mais bon, il faut de l'énergie pour faire un film. Il faut vraiment beaucoup d'énergie. Donc, je pense que si j'arrive à faire deux films, ça m'amène à 65, 66, 67. Et là, je me dis, bon, j'ai plus besoin d'aller chercher quoi que ce soit. J'aurais raconté tout ce que j'aurais eu envie de raconter sur l'amitié, la famille, l'amour, les sentiments. Et qu'au bout d'un moment, c'est pas la peine de refaire un truc juste pour gagner de l'argent. C'est pas une bonne raison, de l'argent, pour faire du cinéma, pour raconter une histoire. Mais j'ai envie de revenir à l'écriture pure, évidemment, parce que j'aurais… Mais bon, oui, les salaires ne sont pas les mêmes, ça, c'est sûr. Et moi, j'ai des enfants, j'ai une caravane qu'il faut derrière, hein, que je tire. Elle est toujours là. Et c'est une caravane que j'aime, c'est mes enfants, puis surtout ma fille aujourd'hui qui fait des études et qui est, en plus, on ne sait pas d'où elle sort, elle a 18 de moyenne partout où elle passe. Donc là, on fait une grande enquête logique. Pour savoir, on remonte très très loin, voilà, pour les Guillards, tu sais, pour savoir quel était celui qui avait à une époque, peut-être dans les années de Napoléon, peut-être des bonnes notes à l'école. Donc du coup, elle fait des grandes écoles et tout, enfin tout ça. Voilà, non, un roman, c'est génial, mais à part quand tu fais Harry Potter, quoi, tu vois. Mais…
D'ailleurs, Lagui, les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Je sais que tu mets du temps quand même à écrire. Moi, j'ai mis 2 ans seul à écrire, plus une troisième année avec un collaborateur, Thomas Saint-Ouens. Tu mets 3 ans à écrire. Derrière, tu t'es vite catalogué. Moi, j'avais fait toutes les chaînes de télé, mais j'étais cocaïnomane, dépressif, alcoolique, ancien dieu du stade qui raconte sa descente aux enfers. Bref, et tu ne touches qu'un euro sur les 19 euros du bouquin. Ouais, donc, tout derrière, tu ne touches qu'un euro. Alors, il faut en vendre des bouquins pour pouvoir en vivre. Donc, quand tu fais un bouquin, en général, il n'y avait pas de volonté d'en faire un business, quoi.
Aujourd'hui, un loyer, c'est minimum 1000 euros, tu vois. À bouffer, c'est minimum 20 euros par jour. Boire un petit coup, c'est un peu plus cher, machin et tout. Voir ses potes, faire des petits barbecues. Moi, avec la littérature, tu vis 2 jours sur 7, quoi, tu vois.
Dans une caravane.
Dans une caravane. Après, c'est un autre truc. Ouais, mais bon, voilà, moi, je sais que c'est plus noble que le cinéma, tu vois. C'est un art qui est beaucoup plus noble. Mais en même temps, voilà, quoi, tu vois. Et après, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi un autre aspect qui est très important pour moi. C'est que je me suis vite rendu compte, quand j'écrivais tout seul, que je m'emmerdais au bout d'un moment. C'est-à-dire que si tu me dis, je suis écrivain, et tu fais que ça, et que tu vas en Normandie écrire dans un petit truc avec un feu de cheminée, et que tu vois des vaches tous les jours, au bout d'un moment, tu vois, moi, je ne peux pas, quoi. Moi, j'ai besoin de l'équipe. Et c'est pour ça que je me régale au ciné, parce que je suis seul pendant 5, 6, 7 mois pour écrire. Mais après, je réunis une bande, tu vois. Et d'un seul coup, je me retrouve dans le collectif. Et je me retrouve comme capitaine, je me retrouve comme rugbyman, comme compétiteur, comme animateur, comme, tu vois, j'amène tout le monde avec moi, j'ai besoin de ça. Donc, si tu veux, c'est aussi important, c'est pas que financier. Parce que bon, voilà, écrire devant des vaches, au bout d'un moment, tu vois, c'est bon, quoi. Il y a un moment...
En parlant d'écriture, on va passer rapidement, parce qu'on a déjà été long, Philippe, sur un projet, et on va revenir un peu sur la jeunesse, parce que les gens ne le savent peut-être pas forcément, mais si la France organisera en 2023 la Coupe du Monde de rugby, c'est aussi en partie un peu grâce à toi. C'est toi qui avais réalisé le clip, hein, qui avait été présenté, ouais, à World Rugby lorsque la France avait déposé sa candidature. C'est une fierté, ça, quelque part, d'avoir contribué à ce que sera la France en 2023.
C'est génial. J'ai un mot à dire là-dessus, parce que, en fait, je me suis rendu compte après que les Anglais avaient fait un truc avant nous, qui était un peu dans un vestiaire avec une musique majestueuse et tout. Moi, c'était plutôt dans le côté un peu décalage, tu vois. Ah, et je me suis fait un peu descendre par des mecs que je ne vais pas citer, en disant que j'avais copié. Alors, je voudrais juste rectifier un truc. C'est les Anglais qui m'ont copié. Parce que moi, avant de faire ce truc-là, 20 ans avant à Canal, je faisais déjà des conneries qui ressemblaient à ce qu'ont fait les Anglais après. Donc, si tu veux, je voudrais juste rétablir une vérité. Ça, c'est les Anglais qui m'ont pompé, c'est pas moi qui ai pompé les Anglais.
Alors, pour, ouais, rappeler, Philippe, voilà, pour rappeler, dans le film, il y a Seb Chabal, il y a Fred Michalak, Guy Savoy, les filles du Moulin Rouge, il y avait même l'épouse de Laurent Labitte dans le film.
Pascal,
exactement, Pascal, qui était aussi. Tous avaient un rôle, puis il y avait Bernard Laporte, qui était le sélectionneur qui jouait son rôle finalement.
Oui, j'ai fait ce que je faisais à Canal, j'ai mis un mec dans les vestiaires. Et c'était Bernard, et qui racontait à tout le monde qu'il faut accueillir la Coupe du Monde et qu'il faut que cette Coupe du Monde soit la plus belle Coupe du Monde de toutes les belles Coupes du Monde, quoi. Donc, voilà, mais c'était avec de l'humour, c'est-à-dire que c'était en décalage. Quand Bernard parle à la nana du Moulin Rouge, qui est en train de faire le pont avec des jambes de ouf, là, tu sais, avec le truc, et il va, voilà, et parce que... Et magnifique, voilà, va falloir être grand. Ils vont tous venir au Moulin Rouge, ils vont tous y être au Moulin Rouge. Les Anglais, les Japonais, ils sont tous au Moulin Rouge. Alors il va falloir être magnifique. Et là, elle fait un truc comme ça, et là, il le regarde. C'est Bernard. Bernard, j'avais eu deux prix de la meilleure bande annonce de sport, grâce à lui aussi, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait sur une bande annonce pour un France-Afrique du Sud qu'on faisait à Canal, où je l'avais mis avec des vrais coqs dans un vestiaire. Donc, si tu veux, Bernard, je le connais par cœur, je connais ses expressions. C'est pas un rôle de composition. Bernard. Tu le mets là, tu lui dis, ouais, tu vas parler à des coqs, tu fais, ça chante, mais je vois pas grand chose sur le terrain. Moi.
Est-ce que c'est un bon acteur?
C'est un très bon acteur de Bernard Laporte. C'est un très bon acteur. Il a une phrase que j'adore, c'est quand il dit, les gars, c'est aujourd'hui, hein. C'est pas demain. Alors, il a un truc, si tu veux, c'est avec les doigts. Parce qu'il est toujours, tu sais, c'est un rappeur. C'est un rappeur qui s'ignore. Il est comme ça, et il est là, et puis il fait. Et j'aime bien parce que pour lui, tu vois, aujourd'hui, c'est là, ok, c'est là. C'est pas hier, tu vois, c'est pas hier. Et alors, s'il avait les grands bras, il pourrait dire avant-hier, tu vois. Mais le mec est barré, quoi, tu vois, j'adore. Donc, j'avais fait ce truc. Après, voilà, c'est pas grâce à moi sur la Coupe du Monde, mais en tous les cas, c'était le truc à faire, c'était ça, quoi, tu vois, voilà, c'était le truc à faire avec Bernard. Et apparemment, hein, parce que tu sais, Brett Gosper, qui était à la
directeur général,
qui est mon pote, puisqu'on a joué ensemble au Racing, il est dans le bureau quand il passe les trucs où il y a, tu sais, tout le monde passe avec son programme, les Argentins, tout ça, machin. Et il m'envoie un texto, il m'envoie un texto parce que moi j'étais à l'extérieur. Il me dit, tu viens de faire un carton, tout le monde se régale, tout le monde a rigolé. Donc c'était les Australiens, enfin, tu vois, toutes les fédés qui étaient là, quoi. Tu vois, tous les présidents et tout. Donc je suis fier de ça, là, tu te rends compte. Voilà, je suis fier de ça, bien sûr.
Alors justement, puisqu'on parle de France 2023, Philippe, j'aimerais que tu nous parles. Il y a un projet en gestation, on va dire, justement pour 2023, voilà. En partenariat. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots?
Ouais, c'est-à-dire que ça fait un petit moment que je prépare un film que j'ai écrit avec Eric Fournols, justement, sur l'idée de réfugiés, demandeurs d'asile qui débarquent dans un village réfractaire à leur arrivée dans le sud de la France. Et qui vont quand même s'intégrer dans l'équipe de rugby, dont trois d'entre eux vont devenir des pièces majeures de l'équipe de Tourtour, du rugby club de Tourtour, qui n'a pas gagné le derby contre Troc-Pont depuis à peu près 20 ans. Donc, si tu veux, c'est à la fois une comédie, à la fois une comédie humaniste, tu vois, sur l'intégration de réfugiés qui débarquent de Syrie, d'Afghanistan, du Congo. Voilà, il y a trois personnages qui sont super parce que tu as un Afghan qui veut absolument jouer parce qu'il est. En fait, c'est un lutteur. Donc, personne ne veut qu'il joue au départ, mais le mec est lutteur, donc il arrache tous les ballons. C'est un conte de fées un peu, tu vois. Voilà, il y a De Gaulle qui est un Congolais professeur d'histoire géo qui, lui, veut pas jouer, mais comme il tombe amoureux de l'institutrice du village, évidemment, il va y aller au mastic. Mais il s'arrange quand même pour partir à gauche quand le ballon va à droite, tu vois, pour l'instant. Donc, et en même temps, il y a tout ce côté, ce mec qui arrive de guerre extrêmement violente et qui hallucine parce que c'est le regard des mecs sur une guerre de clochers où ils se disent tout ça pour ça, quoi, tu vois. C'est, voilà. Donc, du coup, c'est la grande guerre, enfin, la petite guerre. Et c'est un joli film que, normalement, je vais tourner en juillet-août et qui devrait normalement être le film porte-drapeau de la Coupe du Monde 2023, de par les valeurs, quel véhicule, qui véhicule, voilà.
Justement, au niveau des valeurs, cette histoire d'amour, entre guillemets, hein, de cette équipe de rugby composée de migrants et venus d'horizons différents, est-ce que c'est finalement pas l'essence même de ce sport qu'est le rugby, dont on dit qu'il est le plus démocratique, il y a des gros, des petits, des grands, des roux, des
ah ouais.
Il y a deux races dans le rugby, hein, il y a la race humaine et la race que tu te mets le week-end, hein, donc après il y a toutes les gabarits, hein, comme tu dis, c'est toutes les différences, et sérieusement, on le pense, hein, tu débarques au rugby à 7 ans, moi j'étais dans un collège catholique quand même, où on prenait la tolérance entre 1000 petits blonds, blancs, bien peignés, tu vois, en plus privé, tu vois, il y avait les barbelés autour et puis des cités derrière. Et le rugby derrière qui te fait découvrir qu'en fait, ouais, mais non, t'as juste plein de, t'as plein de couleurs et t'as juste la race. Et puis à 14 ans, la race que tu te mets le week-end. Donc,
ouais, c'est une forme. Et puis, bon, maintenant, attention, il faut parler de c'est encore dans le rugby amateur, c'est-à-dire 90%. Il ne faut pas oublier que 90% du rugby, c'est du rugby amateur, hein, aujourd'hui. Il ne faut pas oublier ce rugby-là, qui est celui qui était le plus proche de ma génération encore, tu vois, où on était quand même amateur. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de petits, enfin, tu vois, dans le top 14, les différences sont un peu, il y a moins de différences physiques. En revanche,
il y a une uniformisation, pardon.
Voilà, mais en revanche, elle a été échangée par une mixité incroyable, tu vois. Aujourd'hui, tu as des blacks, tu as des beurs, tu as des, vraiment, enfin, des Maoris, t'as du Gaulois, enfin t'as, et donc si tu veux les différences physiques qui existaient et qui en faisaient un sport, je parle de haut niveau, qui en faisaient un sport particulier, on les retrouve maintenant, ça a été remplacé, mais par d'autres critères de différence, voilà. Mais
Philippe, mais pour répondre Gilbert, un peu,
juste la parenthèse, on a reçu Gilbert qui est c'est Antoine Gilbert justement qui est du Racing, et on lui disait, alors ça fait quoi de faire partie justement du 92, ce truc un peu showbiz du Racing, showbiz un peu bourgeois, et il dit non mais t'as vu l'équipe qu'on a quand même, t'as pas mal de mecs maintenant qui arrivent de cité, donc ça n'a plus de sens de dire que le Racing est comme ça. Ça rejoint ce que tu dis justement sur la diversité et puis sur la popularisation du rugby, où aujourd'hui t'as des mecs de partout, quoi.
Mais non, mais nous, au Racing, on nous traitait de fils de gosses de riches, mais il n'y a pas un seul mec qui était riche, nous.
Bien sûr.
Nous, on était tous des gosses de banlieue. Enfin, on arrivait de la province de Paris, quoi, tu vois. Mais Mais tout ça parce qu'on a été les premiers à mettre des blazers avec une cravate. Donc, d'un seul coup, ça faisait très machin. Mais tu crois que Jeunet, Serrières, tout ça, c'est, on est, enfin, tu vois, on n'était pas les minés du 16e arrondissement, tu vois. Et personne, d'ailleurs, n'était parisien dans cette équipe, pratiquement. En tous les cas, pas parisien du 16e arrondissement, tu vois. Donc, bon, ça, après, il y a les images qu'on colle et la vérité, ça, c'est sûr que c'est différent.
Juste pour revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à la critique, Philippe, mais est-ce que ce n'est pas un joli pied de nez justement à tous ceux qui t'ont collé cette étiquette rugby, parce que ce film finalement va être catégorisé peut-être dans une forme de cinéma engagé?
Bah ouais, et puis alors, tant mieux, tu vois. Moi, je vais revenir. En fait, si tu veux, le deuxième film, on va tout casser. Au départ, c'était des anciens joueurs de rugby. Et à l'époque, j'avais des producteurs qui m'ont dit non, arrête avec le rugby. Et puis finalement, je me rends compte que Olivier Marchal, c'est un ancien flic, il fait que des films de flics ou de voyous. Mais pourquoi moi, ancien rugbyman, je ne ferais pas que des films avec du rugby ou une consonance un peu sport ou rugby, tu vois? Pourquoi pas? Au contraire, je trouve que ça donne justement une identité plus forte que tous les films que j'ai faits hors rugby, qui sont catalogués comme films comme tout le monde, quoi, tu vois. Donc, si tu n'as pas une spécificité, voilà, moi, je vais revenir à ça. Et tout ce qu'il y aura derrière, là, à partir de maintenant, il y aura un fond de rugby. Parce qu'on est, on a des belles histoires, nous, les rugbymen. Que ce soit en tant que joueur, qu'en tant qu'homme, après, on a aussi des histoires d'amour. Pourquoi dans Titanic, pourquoi il ne serait pas rugbyman, Leonardo? Alors, tu vois ce que je veux dire? Il ne serait pas mort en plus à la fin, parce qu'il aurait pu nager jusqu'au bout, parce qu'il n'aurait pas eu froid.
Philippe, ce projet, donc ce tournage cet été, est sorti probablement pour le début de la Coupe du Monde, du coup?
Tournoi l'année prochaine.
D'accord, donc ouais. en amont de l'événement.
Mois avant, ça sort. Ouais.
D'accord, mais qui sera le porte-drapeau de l'événement. Dernière question, messieurs, parce qu'on a été très très long, t'as retenu longtemps, voilà, Philippe, c'était très riche. Petite question, tu seras où mercredi soir, quelques heures après la sortie?
Il y a une traditionnelle soirée qu'on appelle la soirée des chiffres, où à 23h30, tu sais à peu près ce que va faire ton film. Et moi, je m'attends au pire, parce que de toute façon, il va faire 40 degrés. Je m'attends au pire. Personne ne va au cinéma. Le film est bon, je le sais. Le film est drôle. Mais je m'attends au pire, comme ça, si tu veux. Il y a la seule différence qu'avec le rugby, il y a un gros match. Mais moi, je ne joue pas là-dedans, puisque c'est le public qui va venir ou pas, quoi, tu vois. Donc, je ne suis pas actif. Donc, on est passif et on attend les chiffres. Et là, on ouvre quand même des bouteilles de bière, quoi qu'il arrive, parce que de toute façon... La vie passe, hein. Comme tu te dis, on ne va pas me mettre en prison. Hein. Je crois pas. Peut-être que c'est aussi, on ne sait jamais.
C'est un joli mot de la fin, en tout cas. Raph, comme d'habitude, le mot de la fin, il te revient pour conclure cette belle émission. On a parlé de beaucoup de choses. Le mot de la fin, ce serait quoi, Raph?
Rien à dire de plus. J'étais comme dans le rugby, en fait. J'étais acteur, mais là, j'étais spectateur d'un bon moment de vie avec la Guy. Voilà, tu t'assois, tu sors les pop-corns et puis t'écoutes. Et donc... Rien à dire de plus que merci mon ami pour ce moment privilégié. J'ai pu en passer beaucoup aussi chez toi, là où tu es maintenant, et j'espère en repasser encore. Et puis j'irai au cinéma, promis, cette semaine. Ça fera au moins une place, la Guille, en attendant le plus possible.
Voilà, messieurs, bon, Poulain, Rafut, c'est merci fini pour aujourd'hui. J'adore ce que vous faites. C'est dans tous les cinémas, mercredi 18 mai, avec Gérard Lanvin et Artus, un film réalisé par notre ami Philippe Guillard. Philippe, un grand, grand merci et un gros...
Merci à vous.
Bon, j'adore ce que vous faites tous dans les cinémas dès mercredi. À très vite, au revoir.
Merci, bisous.
De la Guy.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.